Bonjour tout le monde, je m'appelle Sylvain Démenti, bienvenue au Club Démenti. Aujourd'hui, on va discuter du livre L'Exorciste de William Peter Blatty. Et j'ai des invités vraiment le fun à vous présenter. Premièrement, ma fidèle acolyte, Maps.
Toujours là.
Toujours là. Et là, Dieu sait que je t'ai sorti de ta zone de confort aujourd'hui. J'ai aussi l'écrivain extraordinaire Patrick Isabelle. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Et j'ai mon ancien collègue du dernier podcast sur la gauche, Patrick Lirette. Salut Patrick.
Bonjour. Salut.
En direct de la Belgique. By the way, c'est parce qu'on avait un ami en direct de la Belgique qu'on fait le podcast aussitôt. Ce n'est pas parce qu'on avait peur de parler de l'exorciste le soir quand il fait noir. Non, c'est pas ça.
On aurait pu le faire tard, je suis en congé de main, donc je me couche à l'heure que je veux.
Ah ouais.
En plus.
Mais oui.
Comme maintenant. Là.
J'ai dit à Sylvain, on pouvait le faire à l'heure qu'il voulait.
Mais moi, j'avais une petite considération pour toi quand même. vous savez déjà, mais je le répète à chaque fois, ceci est un club de lecture, donc on va prendre pour acquis que vous avez lu le livre, alors on va retenir aucun divulgateur. Et puis, ça parle de quoi, l'exorciste? Eh bien, l'exorciste, ça parle presque pas d'une petite fille qui est possédée par le démon. Ça parle presque pas d'un exorciste non plus. En fait, c'est l'histoire de Chris McNeil, qui est une actrice qui est loin de chez elle, qui est en tournage dans une ville qu'elle connaît pas, avec sa fille. Elle est mère célibataire. Et là, elle est de plus en plus inquiète parce que sa fille a un comportement de plus en plus étrange. Parallèlement à ça, on va suivre l'histoire de Damien Carras, qui est un prêtre et qui va perdre sa mère. Sa mère va décéder, il va avoir beaucoup de regrets par rapport à ça et il est en train un peu de remettre sa foi en question. Les deux personnages vont se rencontrer et puis il va y avoir un exorcisme. Mm-hmm. Alors, je lance ça comme ça direct, tout de suite. Je vais commencer avec Patrick Lirette. Qu'est-ce que tu as pensé de l'exorcisme?
Qu'est-ce que je pense de l'exercice? C'est dur de ne pas comparer au film parce que c'est un de mes films favoris, donc je vais essayer de parler que du livre. J'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est un livre qui se lit super rapidement, super bien. Maintenant, le niveau de langage est accessible à tous. Je trouve que c'est vraiment pas un livre où est-ce que tu te casses la tête, où les dialogues sont super bien écrits. Et ça c'est quelque chose que beaucoup d'écrivains et de scénaristes n'arrivent pas à faire. Je trouve que t'en marques beaucoup dans les personnages. À la limite, il y a peut-être le détective, je me rappelle plus comment il s'appelle.
Fucking Kinderman.
Ouais, je trouve qu'il parle un peu trop par moment. Mais ouais, c'est ça. Mais dans l'ensemble, sérieusement, je suis un lecteur très lent habituellement, même si j'adore lire. Mais voilà, ça m'a pris, je pense, 3 ou 4 jours et c'était fini. Fait que beaucoup aimé, beaucoup plus hardcore que le film par moment. Moi, je trouve, en tout cas, mais heureusement, parce que c'est des trucs que j'aurais pas voulu voir sur le grand écran.
mais toi, tu parlais, tu sais, je veux pas t'empêcher de parler du film. Là. Toi, tu as dit que tu avais beaucoup aimé le film, mais c'est ça, toi, ton expérience a vraiment été de lire le livre après avoir vu le film comme
oui.
Beaucoup. Là. Fait que oui, c'était, oui. Quoi, c'était quoi ton expérience dans cet angle-là? Parce que moi aussi, je suis dans le même cas. Là. Je connaissais quasiment le film par cœur. Puis,
ben exact, oui.
Le livre, c'est drôle.
C'est ça. Ben en fait, il y a peu de différence. Moi, je vois ce que William Friedkin, pourquoi il a supprimé certaines scènes et pourquoi il a mis plus d'emphase sur d'autres. Par exemple, dans le livre, la scène du 180 de la tête, je trouve qu'elle est très précipitée.
Ouais.
Et c'est correct parce que dans le film, ça a un grand impact. Et ce que j'aimais beaucoup du livre aussi, c'est que tout... Et ça, c'est aussi dans le film, mais encore plus dans le livre, on a vraiment l'impression qu'on ne veut pas une expiation surnaturelle, on ne veut pas parler de démons, de diable, etc. Sauf à la toute fin, je pense, quand le lit lévite, et même quand il y a des trucs surnaturels, en tout cas, que nous, on trouve surnaturels, ce qui est normal, comme de la télékinésie, de la télépathie, ou je ne sais pas trop, le prêtre, ben, Carras, il explique ça de manière rationnelle,
Rationnel, ouais.
ce qui est assez particulier, même si. Mais tu as d'autres livres aussi que des phénomènes surnaturels comme ça, de cette époque-là, parlent comme si c'était scientifiquement prouvable. Par exemple, je pense que c'est La Maison des Damnés de Matheson. Il y a un scientifique qui arrive avec sa machine et c'est un peu le même principe. C'est normal que ça existe et dire c'est pas des démons, c'est des phénomènes qui peuvent arriver. Et sincèrement, de ce côté-là, je trouve ça génial et je trouve ça correct que dans le film, au contraire, ben, allez, au contraire, on parle beaucoup de faits scientifiques et mais c'est moins appuyé dans le film que dans le livre. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans le livre, surtout que dans le livre et le film, ben, ils se ressemblent énormément, donc c'est intéressant de au moins avoir quelques différences, parce que sinon, voilà, si tu lis exactement la même chose, il y a peu d'intérêt.
Globalement, je me sentais comme dans des pantoufles. Là.
Oui,
Où je m'en
exact.
vais, c'est bon.
Exact.
Ben, écoute, merci Patrick, on reviendra si tu as autre chose à dire, mais maintenant j'aimerais savoir ce que Patrick Isabelle en a pensé. L'exorciste!
OK, moi, j'ai vu le film quand j'avais genre 18 ans, puis ça m'a marqué à vie. Je pense que j'ai pas dormi pendant 2 semaines. Et c'est suite à ça que je l'ai lu pour la première fois. Parce que là, moi, c'est une troisième relecture que j'ai faite hier, d'ailleurs. Mais ça fait pas
Merci,
mille
on te
journées
remercie
maintenant,
pour
ça, que
ça.
j'ai lu toute la journée. J'ai lu jusqu'à 1 h du matin. Je n'étais comme plus capable d'arrêter. Au début, j'étais comme, bon, je l'ai déjà lu, c'est pas bien grave. Finalement, j'ai vraiment embarqué dedans. J'aurais aimé ça, le lire avant de voir le film. Je pense que c'est un excellent roman, c'est extrêmement bien écrit. Je pense que la prose de Blatty est vraiment le fun. Peut-être moins dans la traduction que j'ai lue. La version originale, j'ai lu quelques bouts de la version en anglais, qui est la version originale qui coule beaucoup mieux, selon moi, qui est beaucoup plus fluide, surtout dans les dialogues. Il y a énormément de dialogues, ce qui rend la lecture assez facile. Ces dialogues sont fascinants, je suis d'accord avec Patrick là-dessus. Tous les dialogues entre Carras puis le démon, j'ai trouvé ça savoureux, beaucoup plus que le film. Là, je compare beaucoup avec le film parce que le film, je l'ai vu des centaines de fois. Fait que le dialogue, j'ai trouvé que ça, c'était vraiment très, très intéressant. C'est pas un roman parfait. Il y a du monde qui crie au chef-d'œuvre, qui dit c'est le roman le plus terrifiant de tous les temps. C'est bon, c'est oppressant, c'est angoissant. Il y a des images que j'ai vues en lisant hier que je ne vais jamais revoir de ma vie. Il y a des scènes beaucoup plus traumatisantes dans le roman que dans le film. Puis je lisais, je suis comme, ben voyons, ça n'arrête jamais. OK, on va en parler tout de suite. La fameuse scène du crucifix, pour ceux qui savent. Je suis comme, OK, je l'ai vu, mais là, ça continuait. Je suis comme, ben voyons, elle n'arrête pas. Puis là, c'est comme, non, je me fais plaisir. Je suis comme, j'ai pas le goût de voir ça. Elle a 12 ans, la petite fille. Là,
Oui.
là je le voyais dans ma tête. Je suis comme, ah, oh, je peux-tu passer au chapitre suivant, s'il vous plaît? Mais il y a des défauts. Il y a des personnages que je comprends pas pourquoi ils sont là, puis qui ont une histoire. Le Carl, j'étais comme, on peut-tu le tuer, lui, s'il vous plaît? Fait que chaque fois qu'on revenait à Carl ou qu'on revenait à l'inspecteur, le Kinderman, j'étais comme, c'est plat. Parce qu'à un certain moment, j'ai fini par passer des grandes pages parce que j'étais comme, je m'en fous de Kinderman puis de son amour pour le cinéma, là. Je suis pas là pour ça. Donnez-moi Carras, donnez-moi Chris McNeil, qui est selon moi le MVP du roman, qui est un personnage super fascinant, super bien écrit. J'aurais aimé ça l'avoir plus vers la fin. Je trouve qu'on l'abandonne assez rapidement une fois que l'exorcisme
C'est vrai.
est terminé. J'ai beaucoup aimé lire son débat intérieur parce que c'est une athée, c'est une mère monoparentale qui est divorcée, qui a ses propres démons, qui deal avec un ancien mari qui est juste pas là puis qui s'en contrefout complètement. D'elle puis de sa fille. J'ai trouvé tout son discours intérieur super fascinant puis vraiment intéressant. C'est à elle que je me suis senti le plus. Là. Beaucoup plus que Carras, qui est beaucoup moins présent que je pensais qu'elle allait l'être suite à mon visionnement du film, parce qu'on le voit beaucoup dans le film, puis il est très, très torturé. Puis on voit sa mère qui est comme, mais pourquoi tu m'as fait ça? Puis on le voit dans le roman, mais au début de la première moitié du roman, on le voit pas tant que ça, puis on n'est pas tant dans sa tête. Je trouve ça intéressant plus tard, quand on le voit beaucoup plus dans sa tête, quand il enquête sur les possessions et compagnie. Là, je parle beaucoup, tu m'arrêtes si tu veux, Sylvain. Mais bref, tout ça pour dire que moi, j'ai beaucoup aimé le roman. C'est vraiment Je sais pas si je peux considérer ça comme un roman d'horreur, parce que c'est vraiment un slow burn. C'est très, très lent. C'est vraiment psychologique. Ça commence tranquillement. Mm-hmm. On embarque là-dedans. On la suit, elle. Puis on est comme pas trop sûr. Elle entend des bruits dans sa maison. Puis elle est comme, what the fuck? Puis il y a comme ses servants ou whatever, ses employés qui sont là, que je comprends pas pourquoi ils restent là, d'ailleurs. Là. Comme moi, si je me traiter comme elle, après ses employés, j'aurais sacré mon camp bien avant ça.
Ouais.
Mais bon. Fait qu'il y a des trucs dans le roman que j'étais comme, ça, c'est pas réaliste, ça, c'est pas réaliste. Moi, si j'étais son assistante, je l'aurais envoyé chier bien avant ça. Mais elle est comme, oh non, je vais aller chercher des médicaments. C'est comme, non, va-t'en à l'hôtel. Voir ton cavalier, là, whatever. Elle reste là, je dirais, mais voyons. Fait qu'il y a des trucs que j'étais comme, j'aurais mis ça plus d'explications. Pourquoi est-ce que Carl puis whatever, Willy, sa femme, son nom, pourquoi ils restent là, puis pourquoi ils sont attachés tant ça à cette petite fille-là que on connaît pas vraiment parce qu'on la voit genre 2 secondes au début du livre. Puis comme, oh, maman, le cheval! Il est joli, le cheval. Puis après ça, c'est comme, oh, ma fille est possédée, on va aller voir la famille. Fait que j'étais comme, il y a des trucs que je trouvais très, très expédiés, très, très rapidement. Mm. Mais ça reste un roman extrêmement bien écrit qui nous accroche, puis on a envie de savoir ce qui va se passer, même si j'ai vu le film 100 fois, puis je le sais, là, que elle est pas hyperactive.
Mm-hmm. Non.
Fait que c'est ça. C'est mon take. Voilà. C'était beaucoup de mots pour dire que j'ai adoré ça. C'est un très bon roman que je conseille à tous ceux qui n'ont pas vu le film, ou même ceux qui ont vu le film, je pense que ça ajoute beaucoup. Bon, ça va hanter vos cauchemars à vie, mais ça, c'est un léger détail.
Tu dis qu'elle n'est pas hyperactive, puis ça m'a rappelé que ça m'a surpris quand elle s'est fait prescrire du Ritalin. J'étais comme, mais voyons, toi, ça existait déjà dans ce temps-là. Il me semblait que c'était une nouvelle affaire des années 90, mais non!
Non, c'était le début en 71. Ça a été écrit en 71, ce livre-là, en 52 ans.
Mmh. Et
ça tient la route.
Oui, absolument.
Oui.
La psychiatrie a changé beaucoup, mais oui.
Mais c'est chouette de voir que dans le livre, je trouve que l'auteur a vraiment fait ses recherches. En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'il sait de quoi il parle, quoi.
Mmh. Mmh. D'ailleurs, je pense que Maps en a long à nous dire là-dessus. Maps, qu'est-ce que tu as pensé de l'exorciste?
Écoute, c'est vraiment fascinant parce que j'ai un background très différent de vous. Je n'ai jamais vu le film et je ne regarderai jamais ce film-là de toute ma vie.
Tu n'as jamais vu le film, hein?
Non.
Mais voyons donc.
J'ai vu le cercle, puis je suis plus capable d'enlever les cheveux de mon bain, tu sais, fait que c'est ça que je peux pas... Je peux pas regarder plus que ça, on s'entend. Donc, lorsque Sylvain m'a dit qu'on allait lire l'exercice, j'étais comme, bon, ben je vais passer mon tour, tu sais, ça va se passer ainsi. Puis finalement, concours de circonstances, je l'ai lu. Et surprenamment, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé et je trouve, justement, vous en avez parlé un petit peu, le volet psychologique est super intéressant. Je trouve que les deux lignes, tu sais, tu peux suivre le volet ésotérique, tu peux suivre le volet psychologique, puis tout est explicable. Pourquoi ce comportement-là? Pourquoi? On ne sait pas pourquoi, mais tu sais, c'est plausible qu'elle ait ces comportements-là, qu'elle connaisse des langues parce qu'elle a entendu du russe, parce qu'elle a lu du latin. Donc, les deux trames sont intéressantes, puis nous gardent dans le flou de comme, ben ça pourrait s'expliquer quand même psychologiquement, ou ben si tu veux suivre le côté de la possession, tu peux y aller aussi. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Vous avez parlé juste avant que on voit qu'il a fait ses recherches et ça paraît au niveau médical, au niveau psychologique. Je trouve qu'il y avait un petit peu parfois de info dump, tu sais, il y en avait comme des pages, il y a quasiment de DSM? Le
oui, celui-là.
Je vais t'aider là-dessus.
Le DSM.
La Bible, la psychologie, ouais. Dans une couple de pages qui nous explique.
La maladie mentale,
oui. Oui, c'est ça, toutes les possibilités qui pourraient se passer avec elle. J'étais comme, OK, c'est beaucoup d'informations. Là. Je sais pas à quel point c'était
nécessaire. Tu vois qu'elle a interviewé des docteurs et des psychiatres, puis qu'ils ont enregistré, oui. Puis qu'il y a comme tapé exactement ce que le médecin dit.
Oui, c'est ça. Ça semblait du remâché, là, mais bon, on peut pardonner quand même ces petites choses-là. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé ça intéressant aussi qu'il y avait les deux lignes. T'sais, on suit, bon, Regan puis sa déchéance, mais on a Kinderman qui cherche et qui est coupable de Perk. C'est quand même divertissant. Ça rajoute de la légèreté.
Oui.
Je veux juste interrompre là-dessus parce que je veux dire que moi, Candlemoon, c'est comme. C'est, moi, je trouvais que c'était une copie conforme de Columbo. Genre,
c'est vraiment ça.
Oui, dans mais j'ai. Film surtout, là. Mais encore, j'ai encore une petite question. Mais je ne veux pas vous déranger, là. Ah, oh, je sais, vous êtes occupé. Mais j'ai encore une petite question. Puis, tu sais, il gosse. Puis, il gosse tellement que moi, j'en suis venu à le comparer aux deux policiers dans. Là, je m'excuse, Maps.
Vas-y.
Tu n'as pas cette référence-là. Mais je l'ai comparé aux deux policiers dans The Last House on the Left. J'ai comme, il brise le ton, là. Il brise le ton. Mais bon, vas-y. Poursuis, Max.
Ben, de façon générale, c'est pas mal ça. Puis ça m'a donné envie de lire sur le film.
De voir le film?
Non, pas de voir le film. lorsque je suis une lectrice qui ne se fait pas de film dans ma tête, donc c'était très bien comme ça. Là. Les mots ont passé, puis je suis quand même capable de dormir maintenant. Donc, si j'écoute le film, je sais que je vais devenir insomniaque pour le reste de ma vie. Donc, c'est pas nécessaire. Mais j'ai lu sur le fait vécu parce que ça a été inspiré de l'histoire de Robbie Bunham qui a été possédé en 1949. Et c'est vraiment un gros copier-coller de son histoire à lui, le jeune garçon de 14 ans qui, un jour, sa tante était médium, puis il faisait du Ouija avec elle, puis elle est décédée, puis il voulait y parler, puis il a commencé à faire du Ouija toute seule, puis là, il y a des bruits qui ont commencé à arriver, lui, il a commencé à changer de comportement, il a vu un prêtre, ils ont fait un exorcisme, trois exorcismes pendant trois semaines des prières, puis un beau jour, il est revenu comme il faut, il est revenu à la normale. Ouais, aucune idée de ce qui s'est passé. C'est fascinant quand même, hein? Donc, je trouvais que c'était quand même très fidèle sur le fait vécu. Puis, ça explique aussi la fin. J'aimerais ça qu'on parle éventuellement de la fin que j'ai trouvée comme, somme toute, insatisfaisante.
Ouais.
Mais compte tenu que le fait vécu est aussi insatisfaisant, je me suis dit, est-ce que l'auteur ne voulait pas traficoter, ne voulait pas aller plus loin? En tout cas, je me souviens qu'on en parle plus tard de ça.
Ben, dis-toi que la fin du film est plus satisfaisante, donc si tu veux voir le film...
Non, tu peux me raconter si tu veux.
Ça me laisse pas.
C'est même... enfin, bref.
Mais pour ce qui est de la fin, j'ai l'impression, je veux faire du surf sur ce que Patrick a dit tantôt, j'ai l'impression que... Je sais pas si c'est Pat qui a dit ça tantôt ou c'est juste dans ma tête que j'entends des voix, mais... J'ai l'impression que la fin est floue parce qu'il voulait pas finir ça super spirituel. Parce que j'ai l'impression que Blatty, même si c'est un catholique avoué, voulait pas aller dans l'aspect religieux de la patente avec ça. C'est la raison pour laquelle Chris McNeil est athée puis que le prêtre a vraiment comme des problèmes avec sa foi, qu'il a des problèmes à croire à la possession. Je pense que c'est pour ça que la fin est pas genre « Ah, le démon s'envole et disparaît, et, la lumière arrive, la petite fille elle revient elle-même. » Je pense que la fin est précipitée puis floue pour justement faire comme « OK, il est mort, puis c'est fini, puis dat-ça, dat-ça. » J'ai l'impression que la fin est là un peu pour rester dans le même ton que le livre tout le long.
Okay.
Pour nous faire douter de genre « Est-ce qu'elle était vraiment possédée? Ouais. Est-ce qu'elle l'était pas? » On n'a pas de réponse. On n'a vraiment pas de réponse à savoir... T'sais, on parle de Pazuzu, qui est comme le démon, mais quand Merrin arrive dans Patente, tout ce qu'on sait, c'est qu'il a déjà combattu, puis on ne sait pas trop pourquoi, d'ailleurs. Et tout ça est assez flou. Il revient, là, il est mort, puis il est comme « Prends-moi, prends-moi! » Puis on le voit pas se pitcher par la fenêtre, ce qu'on voit dans le film, d'ailleurs. tout ce qu'on sait, c'est qu'il s'est sacré en dehors de la fenêtre, puis il est mort, puis la petite fille est comme « Maman, maman! » Puis c'est tout ce qu'on voit de Regan après ça. J'ai l'impression que la fin était là pour garder le ton tout le long du roman où on est sur une ligne mince de est-ce qu'on a vraiment, on est-tu vraiment dans la religion, on est-tu vraiment avec un démon ou on est dans la maladie mentale. Je pense que c'est pour garder ce flou.
Ouais.
Selon moi. Je ne suis pas William Peter Blatty, mais c'est ma version de comment moi j'ai compris la fin, parce que la fin est extrêmement décevante. Je suis d'accord avec toi.
J'aurais pas employé le mot décevante, mais je suis d'accord avec tout ce que tu dis.
Ben, ça tombe à plat, tu sais, ça augmente, tu sais, il y a vraiment une tension tout le long du roman, puis là, t'arrives à la fin, puis à un moment donné, il a vraiment fallu, et j'étais comme, voyons, j'ai-tu manqué une page? Puis c'est comme, non. C'est genre aussi, ça arrive aussi subitement que quand Harry Potter tue Voldemort, là. J'étais comme, voyons, j'ai-tu manqué une page? Parce que non, on fait pouf, c'est fini. J'ai trouvé ça très précipité. Tout les filles, j'étais comme, c'est pas nécessaire, c'est plat. C'est Kinderman, là, je ne l'aurais pas mis dans le roman du tout, là, personnellement. J'ai vraiment une dent contre lui. Une partenaire. Lui et Carl, je comme, il y a un personnage qui ne sert à rien, c'est Carl. J'étais comme, supposé, on est supposé de penser que c'est lui qui est un sorcier, whatever. On ne comprend pas trop pourquoi on le suit à un moment donné. J'étais comme.
Moi, c'est l'ami du prêtre. Bref, voilà. Moi, c'est l'ami du prêtre que j'ai trouvé un peu. Inutile, qui, j'ai l'impression qu'il voulait nous amener vers une fausse piste de justement, c'est lui qui fait le bordel dans l'église parce qu'ils disent qu'il y a des actes de vandalisme. Et finalement, non, il ne sert à rien.
Non, mais moi, je l'ai aimé parce que. Ben, je l'ai aimé.
C'est juste parce qu'il est cute dans le film, ouais, c'est ça. Mais...
Non, mais c'est parce que.
Le gars dans ta tête, c'est comme. Oh!
Il y a comme un petit sous-entendu là, qui serait peut-être gay. Là. Tu sais, il est comme. Ah oui. Oh,
c'est vrai, il en parle d'un certain moment.
Ouais, tu sais, oh, moi, je veux être ami avec des garçons, mais je veux pas qu'ils pensent que. Puis, tu sais, genre, j'ai comme. Je sais pas, j'ai apprécié qu'il soit là. Puis, ça, ses sentiments pour Damien Carras sont un peu. Pas vraiment expliqués, un peu flous. Une fois qu'on a eu cette information-là, c'est comme. Pourquoi ça a été dit? Pourquoi c'est là? Tu sais, c'est un peu.
Ouais, puis on sait qu'il veut défroquer aussi. Mais je pense qu'il est là pour amener Carras vers le défroquage. Puis faire comme tu as raison de ne pas croire, puis de ne pas avoir la foi. Puis tu ferais mieux de juste lâcher l'église complètement. Je pense qu'il est là pour.
Le défroquer littéralement.
C'est ça. Voilà. Enlève ta soutane, mon homme. Je me suis très vulgaire ce matin, oui.
C'est correct, on prend de même. Puis l'autre affaire, c'est, je voulais revenir sur les servants là, qui sont là, puis je suis d'accord avec toi, Patrick, quand tu disais que on ne sait pas pourquoi ils restent là, c'est quoi leur motivation de rester là. Je pense qu'on peut lire, tu sais, il y a une scène à un moment donné où on comprend qu'il y a une fille qui est éloignée, qui a perdu sa relation, il y a comme une relation... Ouais. Un peu triste avec sa fille, puis on peut lire qu'il veut prendre soin de la petite fille qui est là, qui a besoin d'aide. Mais tu sais, c'est pas, on n'est jamais dans leur point de vue, fait qu'on, c'est vrai que de l'extérieur, c'est difficile de comprendre pourquoi ils restent là. Moi, je serais à des kilomètres, j'aurais changé de ville. Je serais même pas proche.
Je démissionne!
Oui, non, c'est bon. Tu feras le ménage tout seul. je voulais aussi parler de. T'avais-tu fini, Maps?
Oui, ben j'ai d'autres choses à dire.
T'as d'autres choses à dire, mais on va revenir à toi.
Oui, c'est ça.
Sinon, j'ai bien aimé le fait que Père Carras devient un peu cette image de figure paternelle parce que Regan en a pas. Il est où le père? On en parle à peine. On sait qu'il existe parce qu'il y a une petite fille, donc nécessairement il y a un père. Mais c'est ça. Donc, puis de voir comment Carras s'occupe de cette petite fille-là après avoir perdu sa mère, parce qu'il a des regrets envers sa mère, tout ça, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Puis les scènes d'horreur, ça m'a surpris parce que j'avais vu le film vraiment plusieurs fois avant de lire le livre. Puis les scènes d'horreur, ça m'a vraiment surpris de voir à quel point elles étaient écrites de façon journalistique. Là. Tu sais, presque, on rapporte un fait, puis c'est ça, puis il n'y a pas de fioriture, on ne rentre pas dans les détails, c'est vraiment comme, mais sa tête spin, puis c'est la fin du chapitre. Puis c'est comme, OK. Puis je trouve que, de prime abord, on pourrait se dire que c'est pas efficace parce que c'est très peu détaillé, mais au contraire, je trouve ça très efficace parce que ce qui se passe, tu peux juste te l'imaginer, quoique Maps ne s'est pas fait de film. Moi, j'avais le film dans la tête, puis il y a eu deux scènes, j'en ai lu des livres d'horreur, là, puis j'ai pas le souvenir d'avoir eu des palpitations au cœur comme j'en avais. Je pense que je t'ai envoyé un message vocal, Maps, à un moment. Juste avant la troisième partie, c'est la scène justement où elle se masturbe avec un crucifix. Puis tu sais, comme tu le disais, Patrick, c'est long, là. C'est vraiment long. Puis
Elle arrive plus de se passer, bon temps.
Oui, puis après ça, elle prend la tête de sa mère dans ses jambes.
Oui. Puis, oh, yeah!
Puis c'est pas. Puis elle finissait pas, puis j'étais comme. Ça, cette scène-là, j'ai eu des palpitations, puis j'ai dû continuer de lire parce que je ne me serais pas endormi. Et non seulement ça, mais après ça, c'est ça. On tombe sur Kinderman. Fait que, c'est Kinderman ou Killerman? Je me souviens Kinderman. Jamais de son nom. Kinderman.
Kinder, comme Kinder Surprise.
Oui, ouais, ben c'est Kinderman, ça, justement. Ouais. C'est la mauvaise surprise du livre. Mais, mais j'ai vraiment. C'est ça. Fait que là, tu sais, il cassait le ton un peu. Puis, moi, j'ai vraiment une fascination. Ces temps-ci, j'ai vraiment envie de retourner à l'horreur des années 70 parce qu'il y avait quelque chose. Je me dis, mais pourquoi je retourne à ce moment-là? Puis je me dis, il y a quelque chose de fascinant dans l'horreur des années 70, c'est qu'on voulait nous faire croire que ça se pouvait, on voulait nous faire croire que c'était vrai. Tu sais, la maison d'Amityville, on voulait donc nous faire croire que c'était quelque chose qui se pouvait. L'exorciste, on disait, ben oui, c'est basé sur un fait vécu, donc c'est quelque chose qui se peut, donc ça arrive. Puis c'est ça, j'ai l'impression que l'horreur de cette époque-là était vraiment axée là-dessus, alors que aujourd'hui, sans parler de l'affreuse suite à l'exorciste qui vient de sortir au cinéma, tu sais, si je regarde The Conjuring, oui, c'est basé sur des faits vécus, mais c'est des grosses explosions dans ta face. Tu sais, je pense pas que. Je pense pas que le but du réalisateur, c'est de te faire croire que ça s'est passé de même. Tu sais, c'est vraiment plus ça. Puis le public aussi est moins. Moins naïf, j'ai envie de dire, ou moins crédule. Puis, c'est ça. Mais je trouve ça intéressant de cette époque-là. Bref, là, je voulais juste dire bonjour à Sab et les livres qui nous envoie un petit commentaire. Ah, je viens de voir Chucky en arrière-plan, le cauchemar de mon enfance.
Mais non, il est inoffensif. Il est super cute.
Mais oui, il est cute.
C'est pour rien que tu dors pas, là.
J'ai très bien dormi.
Oui.
Je me lève à fucking 8 heures le matin pour faire un set de lecture. Hein. Merci la Belgique.
Alors, Maps, tu avais d'autres choses à dire, vas-y, je te laisse le plancher.
Ben, en fait, moi, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que j'ai fait un cours l'année passée qui se nomme « Regards sur l'ésotérisme à l'Université Laval ». Puis, il y avait un volet sur le satanisme. Donc, en lisant ce livre-là, il y a des petites choses que j'ai trouvées, ma foi, fort intéressantes et qui dénotent des peurs populaires de l'époque, justement des années 70. Tout le discours anti-satanique, puis c'est ça que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que il ne veut pas nécessairement nous faire croire que c'est une possession. Tu sais, il y a tout le temps les deux côtés de comme ça pourrait s'expliquer ou ça pourrait être une possession. Tu sais, je sais pas trop. Il nous laisse dans ce flou-là. Puis j'ai été surprise qu'il nous laisse dans le flou que c'était forcément des gens du satanisme qui s'attaquaient, qui faisaient des larcins autour, puis qui... c'était quoi qui s'était passé sur dans l'église? Il y avait eu des... Je cherche le mot, ouais. Il est trop tôt, là.
Ah, ils ont désacralisé l'Église, mais je ne me rappelle plus comment ils disent exactement. Il y a un terme, là, mais...
Il y a eu des horreurs qui ont été faites, puis c'était forcément les satanistes, les sataniques qui ont fait ça. Puis j'ai trouvé ça fort intéressant parce que il y a eu des recherches qui ont été faites. Tu sais, il y a une description des messes noires, là, de tout ce qui se passe... Attendez, j'ai la page. De tout ce qui se passe à page 177. De tout ce qu'ils faisaient, OK? Dans les messes noires, puis ça n'a jamais été prouvé, on n'a jamais réussi à trouver aucun document, aucun sacrifice, aucune trace, aucune preuve de rien de ça. La peur...
Mais il y a des écrits qui existent là-dessus, Marc.
Il y a des écrits, des témoignages.
Moi, j'ai fait de la recherche longuement là-dessus. Puis...
Il y a des écrits, puis il y a des témoignages. Je
fais des bébés, puis tout, mais ouais.
Mais... ce qui est intéressant à propos de ça, c'est qu'on me dit que c'était à cause de Satan. C'est des gens qui ne croyaient pas en Dieu étaient forcément des gens qui croyaient en Satan. Puis c'est là que ça coupe, dans le sens que comme c'est pas parce que je m'en vais détruire l'Église demain que moi, ma croyance, c'est nécessairement de croire en Satan et que je suis forcément une satanique. Tu sais, il y a des gens qui ont fait des horreurs au nom de Dieu, beaucoup plus qu'au nom de Satan. Et c'est... Oh. Donc, c'est ça que je trouvais fort intéressant dans ce livre-là. Donc,
Mais c'est aussi la pensée des. Excuse-moi.
vas-y.
C'est aussi la pensée des catholiques de se dire que c'est impossible de ne pas croire en Dieu. Donc, si tu regardes beaucoup de films chrétiens, là, des films, je pense que c'est White Dove, la compagnie de production, le message qu'ils passent, c'est si tu ne crois pas en Dieu, c'est que tu détestes Dieu pour une raison X, genre ta femme est morte, puis tu détestes Dieu d'avoir fait ça. Mais ce qu'ils n'ont pas l'air de comprendre, c'est que tu peux juste ne pas croire en rien de ça. Tu sais?
Oui, c'est ça.
Mais bon, bref,
C'est
vas-y.
ça qui est intéressant aussi avec Chris parce qu'elle est athée, tu sais.
Oui.
Donc, je pensais qu'on irait beaucoup plus, tu sais, il nous donne des gros discours des catholiques de l'époque par rapport aux messes noires, par rapport à, c'est sûr que c'est des gens qui croient en Satan, qui ont fait ces choses-là. Donc, j'aurais aimé qu'il y ait comme un petit peu plus de flou ou qu'il y ait d'autres possibilités, que ce soit juste des gens qui croient en rien ou que ce soit juste des gens de leur propre chef, sans nécessairement que ça soit pour comme nuire l'Église catholique. En tout cas, je ne sais pas si vous comprenez où est-ce que je m'en vais.
Oui, mais
Vas-y, vas-y.
encore là, j'ai l'impression que je ne vais pas t'interrompre, ma'am. J'ai l'impression que c'est une fausse piste qui a été mise là pour qu'on se demande justement avec Karl, tu sais, Karl, est-ce que c'est un sataniste? C'est bizarre parce que quand Kinderman, il me tape ses nerfs, mais il y a un bout que j'ai trouvé intéressant où il découvre que le phallus qui a été posé sur une statue de Jésus dans l'église, c'est le même matériau qui a été utilisé pour par Regan qui a fait l'oiseau à sa mère. Ça, c'est comme, OK, fait que c'est Regan possédé qui a été dans l'église puis qui a fait toute la grabuge. C'est ce que ça laisse présager. Puis après ça, on laisse justement tomber toute l'idée des satanistes et tout. Hein. J'ai l'impression que c'était comme plus une fausse piste que d'autres choses, mais c'est vrai que c'est intéressant et qu'on aurait pu aller plus loin là-dedans.
C'est vrai qu'on n'a pas finalement les réponses de ça, parce que Regan, il y avait. Quand est-ce qu'elle serait sortie pour aller faire ça? De ce qu'on comprend, ça serait elle.
Ben, elle est souvent dans le sous-sol, en train d'être seule, en train de jouer. Elle est tout le temps toute seule, cette fille-là, on s'entend? Sa mère travaille tout le temps, puis l'assistante n'a pas l'air présente non plus, là. Elle a l'air plus occupée à taper sur la dactylo qu'à être avec la petite fille, puis elle se pose des questions d'hivernante. Ça, c'est un léger détail, c'est les années 70, j'imagine. On fait des enfants pas mal. Mais elle est souvent tout seule. C'est sûr qu'il y a plein de trous dans l'histoire qu'on ne saura pas. Puis cette affaire-là, c'était comme là, mais on savait comme pas trop pourquoi. Puis là, il parle de messe noire au party, puis comme voyons. Puis là, supposément, Carras, c'est un spécialiste des messe noires. Puis finalement, il est comme non, non, je connais rien là-dedans. Puis comme mais voyons, qui connaît quelque chose? Pourquoi on parle de ça de base? Fait qu'il y a bien des trucs comme ça qui sont comme des. C'est comme des avenues qui est comme OK, il essaie de m'amener quelque part puis de me faire accroire des trucs. Juste parce que je suis un écrivain puis que je connais ces principes-là. Mais c'est vrai que m'amener. Ça va nulle part, puis t'es comme, OK, c'est des détails qui sont là pour me diriger vers
Fausse piste.
certaines avenues, c'est ça, c'est vraiment des fausses pistes qui mènent vraiment nulle part, comme Carl, comme Kinderman, comme, il y a plein de trucs comme ça, même Burke Dennings, que je trouve super intéressant, ce qui est pas dans le film, d'ailleurs, quand elle se met à parler comme Burke Dennings, tu sais qu'elle l'a tué, là, tu comprends qu'elle l'a tué, mais qu'elle prenne, ça fait que le démon prenne sa personnalité puis se mette à insulter tout le monde, surtout Carl. Puis de... Ça, j'ai trouvé ça intéressant, mais j'étais comme, pourquoi on n'en parle pas plus de ça? C'est quand même weird. Il me semble que Chris McNeil devrait paniquer quand elle entend son ancien metteur en scène, quel mot dégueulasse, son ancien réalisateur en train de... Tu vois que c'est traduit dans les années 70. Je comprends pas qu'elle panique pas quand elle entend son ancien réalisateur en train de parler dans le corps de sa fille.
Oui. Ben,
Ça
en
fait
fait,
bien des fausses pistes.
je voudrais rajouter à ça que moi, c'est là, c'est en lisant le livre que j'ai compris. Je me sens un petit peu niaiseux là, parce que je ne l'avais pas compris. Mais je l'ai vu quand j'étais vraiment très jeune, le film, là. Fait que j'ai pas tout compris. Mais c'est vraiment en lisant le livre que j'ai compris que la raison pour laquelle elle se tourne la tête, c'est pour imiter le gars qui est mort en bas des escaliers, tu sais.
Ouais. Mais je pense pas que dans le film, c'est très expliqué par rapport à ça. C'est plus le côté choc elle est capable de trouver
Elle
sa
qui
tête,
tourne la
quoi.
tête. Puis honnêtement, c'est l'image qu'on retient, là. C'est
Oui,
ça qu'on
encore là, le
retient.
tournage de thèse que j'ai trouvé habile dans le roman, c'est que on n'est pas sûr si sa tête a vraiment tourné. Elle est comme à terre, elle a la face pleine de sang, Chris, la mère. Puis elle a l'impression que la tête de sa fille tourne au complet. mais c'est pas dit explicitement que sa tête tourne, à part à la fin, à l'exorcisme de la fin. Ça, c'est dit là, que sa tête, ses os grincent pendant que sa tête tourne. Mais cette scène-là, la fameuse scène de « t'as vu ce qu'elle a fait, ta chienne de fille », c'est comme, c'est pas... Elle a l'impression que la tête de sa fille tourne, mais elle est comme pas certaine de ce qu'elle voit non plus. Parce qu'elle est à terre, puis elle est en train de perdre connaissance, puis elle vient de voir sa fille faire quelque chose d'assez épouvantable, et continuer de le faire pendant 5 minutes, là. Fait que je peux comprendre que Manny, c'est sur le tapis à terre plein de sang, puis comme, voyons, est-ce que sa tête est en train de faire un 180? Fait que c'est comme, c'est pas... On est comme pas sûr en lisant le livre si ça arrive vraiment ou si c'est juste elle qui hallucine et qui voit des affaires ou le démon qui fait voir des choses non plus.
Oui, c'est intéressant.
Mais ça, c'est parce que je compare au film aussi. Hein? Ben, parce qu'on a les images très fortes du film. D'autres matchs, t'as pas vu le film, mais les images du film restent imprimées dans ton cerveau. Ouais. Tu pourras pas t'en défaire si tu regardes le film. Mais je te le conseille. Alors, regarde la version
censurée.
Non. Ben, c'est ce qu'ils ont sorti, une version au début des années 2000 là, qui avait plus de scènes, où on voit entre autres la scène où est-ce qu'elle descend en araignée. Là, ça, c'était pas dans le film original, mais ça vaut la peine d'avoir cette version-là qui est beaucoup plus longue, où on voit beaucoup plus de scènes entre les docteurs et Chris McNeil. On voit beaucoup plus de scènes du roman qu'on voyait dans le film original.
Ouais. Moi, je suis pas entièrement d'accord avec toi. Moi, je préfère la version originale parce que ils ont fait une affaire que je déteste, c'est qu'ils ont rajouté des faces. T'es pas du tout.
Oui, ça c'est ouais.
Ça a comme pas rapport.
Non.
Ben oui, sauf que en tout cas moi quand j'avais 12-13 ans quand je l'ai vu, c'est ce qui m'avait traumatisé.
Oui.
Oui. Donc.
j'ai pas trippé. Il y a juste une autre chose avant de te laisser continuer, Maps. Il y a une autre chose que je trouve vraiment très drôle, auquel je n'avais pas pensé, mais l'exorciste, là, on s'entend que c'est le titre du livre, mais c'est le personnage des trois personnages principaux, c'est comme le personnage qu'on voit le moins, il arrive à la toute fin, il est là pour résoudre le truc, puis il est à peine là, alors que...
Il meurt!
Oui, il meurt! Oui. Mais c'est ça, puis je trouve ça drôle parce que, ben, je trouve ça intéressant parce que c'est un triangle quand même particulier là, qu'on a. On a une athée, un prêtre qui est en train de perdre la foi, puis lui qui arrive en Superman pour combattre le démon, qui a vraiment la foi comme aucun autre des personnages là. C'est ça, je trouvais ça particulier, je trouve ça intéressant, mais vas-y, continue.
Justement, ce personnage-là, je trouve qu'on n'en sait pas assez sur lui, Mary. Puis les plus belles citations, j'ai noté des citations d'un film, oui. D'un livre d'horreur, c'est incroyable. Hein? Je fais même pas ça avec mes livres de tous les jours. Mais je trouve qu'il y a vraiment des perles qui ont été dites par ce personnage-là vers la fin, là, je pense, à la page 367, là, lorsqu'il dit que l'objectif du démon... soit le posséder, c'est les gens autour, c'est nous, c'est les observateurs. Tu sais, c'est pas la personne qui est possédée elle-même. C'est, je pense que l'objectif recherché est de nous amener au désespoir, à rejeter notre propre humanité, à nous voir comme des bêtes viles, puantes, sans dignité, hideuses, méprisables. C'est là le nœud du problème, peut-être dans ce mépris, car je pense que la croyance en Dieu n'est pas une affaire de raison. Je pense qu'elle n'est en fin de compte qu'une affaire d'amour, accepter la possibilité que Dieu puisse nous aimer. Bon, c'est la fin, on s'entend, mais je trouve, tu sais, il y a des images vraiment fortes. Tu sais, nous n'avons pas besoin de Satan pour préparer nos guerres. Celles-là, nous les préparons nous-mêmes. Donc, ce personnage-là, s'il y avait un spin-off, là, j'aimerais bien en avoir un pour savoir, tu sais, ce qui s'est passé avec le démon aussi la première fois qu'il l'a rencontré. Puis,
Tu sais,
il y en a un?
Non, en film, mais oui.
Mais pas en livre.
Mais regarde pas ça, mais non, en livre, ça n'existe pas.
Malheureusement, en livre, ça aurait pu être vraiment intéressant de comprendre comme leur relation, parce qu'ils ont cette relation-là aussi entre le démon et Merin qui se sont déjà rencontrés. Puis on voit que comme lorsque Merin y arrive, le démon il est insulté, il est un peu fâché parce que comme ils ont déjà réussi à se libérer de ce démon-là. Donc j'ai trouvé ça très fascinant. Puis j'aime ton hypothèse de la fin par rapport à lui. Moi, je me suis demandé s'il n'avait pas essayé de transférer la possession du démon dans leur corps, puis de se tuer pour que le démon meure avec eux.
Ah, c'est exactement ça.
C'est ça. Puis que, comme le premier, il n'a pas réussi, mais que le deuxième... Mais là, comment ça veut dire comment Marin l'a fait la première fois?
Non, si... mais Marin, il est malade. Marin, il est cardiaque. Là, il prend de la nitro là, juste avant de faire l'exercice. Puis ça, Manny, il dit, je vais aller aux toilettes, je reviens, ça ne sera pas long, parce que ça va prendre des médicaments. Là. Il est en train de mourir, là, il n'est pas bien. Mm-hmm.
Donc, il serait mort avant. Mais là, la question, c'est...
Il meurt d'une crise cardiaque.
Il n'y avait pas justement le fait que même si le corps de Regan meurt, le démon ne meurt pas. Donc, pourquoi ça serait la stratégie pour se libérer d'un démon?
C'est le corps du prêtre avec la croix dans le cou qui retient le démon dans le corps. Je sais pas, je sais pas. J'essaie de faire une logique, mais... Pazuzu a ses mystères que je ne connais
pas. Le fait, c'est que Chris McNeil, elle en parle de ça, puis comme, c'est quoi, tu fais un exercice, puis le démon s'en va, puis il revient pas, puis le prêtre est comme, c'est même, ça marche, ça adhère, puis il y a personne qui a des réponses à ça. Là. Même Caras, il est comme, oh oui, ça doit être ça, là. On l'exorcise, puis il s'en va, puis c'est tout, puis on comprend pas trop pourquoi il revient pas. Puis, je sais, même le prêtre, il est comme, je le sais pas, c'est pas réaliste, cette affaire-là, tu comprends pas. Il y a personne qui croit à cette affaire-là, à part Marin, qui est pour vrai le personnage le plus intéressant dont on sait absolument rien dans le
roman. Il arrive vraiment très, très tard, ça. Ben, tu sais, je connaissais pas l'histoire.
Ben, il est là au début, on le voit au début dans l'introduction, mais l'introduction, ouais. Ça a tellement rien que je suis comme, pourquoi on est en Irak? Pourquoi on voit ça? Si on voit qu'il trouve une statue, puis on n'en parle pas plus que ça, je suis comme, on peut-tu... Moi, je pensais qu'on allait développer beaucoup mm-hmm. plus là-dessus, puis que l'Irak du Nord aurait rapport avec le... Parce que dans le film, OK, là, je m'excuse, je compare encore avec le film, hein? Dans le film, on comprend qu'il y a un lien entre les deux parce qu'on voit vraiment Marin dans le désert en train de creuser, qui fait de l'archéologie. Puis on comprend qu'il trouve cette affaire-là. Puis il voit le démon dans le désert, puis il est comme « Ah, le démon! » Mais donc on sait que ça rapporte parce qu'on voit cette imagerie-là revenir pendant l'exorcisme à la fin dans le film. Puis dans le livre, ça passe, il passe complètement à côté. Marin, il arrive, on est supposé de savoir c'est qui. Puis de... Il est le fun, là, il est serein, puis il nous rend calme, puis il nous rassure, mais... À part ça, t'es comme « OK », puis il meurt comme 10 pages plus tard, t'es comme « OK, c'était tout ». C'était super intéressant ce qu'il avait à dire, puis la conversation qu'il y a avec Caras sur le bien, le mal, comment qu'il y en a, qu'il y a juste un démon, qui sont pas plusieurs, puis c'est comme « Arrête de te poser des questions, t'as juste pas l'écouter, finalement, il l'écoute pareil, mm-hmm. parce que c'est calme. »
Mais c'est ça doit être dur de pas l'écouter.
Ça, je trouvais ça... C'est ça, oui, mais ça, je trouvais ça super intéressant, mais c'est vrai que ça aurait été fun d'aller beaucoup plus loin dans ce personnage-là. Puis on le verra jamais.
Non.
Parce qu'il est mort. Puis ben, l'auteur aussi est mort, là, fait qu'il ne pourra jamais nous écrire cette histoire-là non plus. Alors, rest in peace, William. Mm. Mais voilà. Mais je suis d'accord.
Ceci étant dit, il y en a un spin-off de l'Exorciste sur papier. Ça s'appelle Legion.
Exact. Mm-hmm.
Mais l'affaire, c'est
que... Mais le problème, sais-tu, c'est quoi?
C'est que c'est Kinderman, le personnage principal.
Voilà. Fait que je ne lirai pas, tabarnak.
Non, c'est ça, moi non plus. J'étais comme, ah, je suis pas motivé.
Non, moi, je l'ai acheté super enthousiaste. Puis quand j'ai vu que c'était Kinderman, le personnage principal, je me suis dit, ah, bâtard. Fait que moi, je pense pas le lire.
Puis il va aller au cinéma, puis...
Moi, je ne suis pas satisfaite là, de cette situation-là. Les gars, je vous le dis, moi, je vais le lire l'année prochaine.
Ah ouais?
Si vous voulez qu'on en jase, on en jasera.
Mais là, je vais être obligé de le lire si tu le lis. Là. Je ne peux pas. Je
peux mais pas ça existe en français.
Je me forcerai pour le lire en anglais.
Je pense que oui, mais je ne suis pas sûr.
Je pense que oui.
Ça doit.
Par contre, je ne sais pas si le personnage est le même parce que quand tu regardes le film, à l'Exorciste 3, qui est Légion, Kinderman, il n'a pas du tout les mêmes dialogues que dans l'Exorciste. Il est très, il est très révolté par rapport à, au monde en général, à la société. Et au contraire, il ne parle pas de cinéma nécessairement. Donc, je ne sais pas si dans le livre, c'est la même chose, surtout que c'est William Peter Blatty qui a écrit et réalisé l'Exorciste 3. Donc, il est peut-être moins chiant.
Faudrait voir. L'année prochaine... au club de lecture Légion.
Voilà. On se donne un rendez-vous. Parfait. Excellent. Est-ce que vous aviez d'autres choses à dire sur l'Exorciste?
Je ne crois pas. Là. J'avais une grosse tirade sur les messes noires et le satanisme, mais Patrick Isabelle, il me dit qu'il y a des écrits. Là, fait que... là, mon côté mon côté, je dirais pas rationnel, mais qui sépare les mots et des choses est très curieux. Parce que ça, tout ce qui venait aussi avec la messe noire, puis moi, ce que je trouvais intéressant, c'est les sectes satanistes, ils n'ont pas réussi à en prouver qu'il y en avait vraiment beaucoup de ça, qu'il y en a eu. Il y a eu Anton LaVey qui a été celui qui représentait le plus le satanisme. Puis, ce que le satanisme croit, c'est en la satisfaction de notre ego. Donc, c'est la seule religion qui développe le développement et le renforcement de l'ego. Donc, il n'y a rien de comme... Une messe, c'est un regroupement, fait que ça n'a aucun lien avec le fait de s'accomplir individuellement. Donc, c'est comme contradictoire qu'il y ait des messes pour avoir une religion qui prône l'individualité. Fait que, en tout cas,
Es-tu en train de me dire que le satanisme, c'est de la croissance personnelle?
Oui! C'est ça que je voulais te dire aujourd'hui, Sylvain. C'est de faire complètement l'inverse, d'être là pour la communauté, puis de croire en le groupe. C'est de mettre toi de l'avant et de te développer toi personnellement et de ne penser qu'à toi. Fait que je me suis dit que ça pourrait t'intéresser pour la prochaine chire de développement de croissance personnelle.
je vais garder ça en tête. D'ailleurs, les articles que tu mentionnes, je les ai mis dans la barre d'infos du live. Donc, sur YouTube, vous pouvez aller voir ça. Et si nous avons terminé, j'aimerais bien qu'on parle de nos recommandations. Tu as d'autres choses à dire, Patrick?
Non. Moi, j'aimerais ça qu'on parle de la diarrhée de Regan.
Ah, purée, oui, ça finit jamais, ça.
Ah oui. Voyons, c'est bien dégueulasse. Pourquoi être plein de marde?
C'est horrible.
Je disais que j'avais mal au cœur. Je sentais l'odeur. Puis comme, oh! Je pense que c'est la chose la plus terrifiante dans tout le roman. Tu sais, je la vois avec sa couche parce qu'elle a des couches, il change ses couches. J'étais comme, oh, ça, c'est troublant. Ça, s'il avait mis ça dans le film, je serais probablement plus traumatisé.
Ben, écoute.
Tu sais, ils sont vraiment de projection diarrhée. Oui. J'étais comme, on est là, là. Je trouve qu'on n'en a pas assez parlé. J'avais envie de l'amener sur le sujet.
C'était essentiel. Je te remercie de t'être sacrifié.
Ça fait plaisir.
On va.
Personne n'avait parlé.
On va voir. Il faudrait créer une marque de Depends spéciale possession.
Oui, bien, moi. Ouais. Pour les petites filles de 12 ans.
Oh! Oh non! Sur ce sujet, ma foi, ragoûtant. Ça me fait plaisir de parler de marde, Patrick. Ça me fait plaisir. Ceci étant dit, donc, j'aimerais qu'on parle de nos recommandations culturelles. Je vais commencer par Patrick Lirette.
Oui, ben, moi, je recommande un auteur en particulier, Adam Neville. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ou vu un de ses films. C'est, ben, il a écrit le livre Le Rituel qui est sur Netflix, qui est quand même pas mal. C'est un auteur d'horreur anglais. Et ses quatre premiers livres sont traduits, donc Le Rituel, Le Temple des derniers jours, deux autres. Voilà, personne d'ici ne sortira vivant. En tout cas, il y en a plein. Et là, tout, il a changé. Je pense qu'il est auto-édité maintenant parce qu'il n'était pas satisfait de ses contrats. Donc, tous ces derniers sont qu'en anglais, mais c'est vraiment très bon. Si vous avez envie de lire de l'horreur cosmique sans passer par Lovecraft, qui est un gros raciste, voilà.
Excellent. Écoute, comment me le vendre comme ça? Super. Ouais. Je serais m'intéressé à Adam Neville. Patrick Isabelle.
Je laisse Maps y aller avant, je vais aller chercher mes trucs. Genre.
Parfait, Maps.
Ben, je vous entends encore. Hein.
Parfait, bon, ça a écouté. Mais là, moi, ça n'a pas un lien avec l'horreur. Là. On sort vraiment champ gauche de tout ça. Puis, ça va être comme un 2-en-1 parce qu'en ce moment, dans la région de l'Outaouais, il y a le Salon du livre afro-canadien. Donc, je voulais juste le mettre de l'avant que c'est un salon qui existe. Je pense que ça fait 6 ans, c'est un petit salon. Puis aujourd'hui, c'est la dernière journée si vous êtes dans la région. Donc, puis si vous l'écoutez genre là, en ce moment, en direct, c'est à la Cité collégiale du côté d'Ottawa. Puis, justement, il y a des auteurs fort intéressants qui sont là. Entre autres, si vous suivez les lectures de Marjorie, vous aurez sûrement entendu parler de Gabrielle Osson, qui a écrit Hubert le reste avec. Donc, c'est un ouvrage qui se passe en Haïti, puis c'est des enfants qui sont utilisés là, comme des esclaves. Là. C'est une réalité qui existait, j'espère. Je le mets comme au passé, en espérant que ça soit le plus le cas. Oui, ouais. C'est ça. Aujourd'hui, là, je ne veux pas m'avancer, mais c'est un ouvrage, ma foi, très bouleversant et très touchant. Donc, ça va être ma petite suggestion aujourd'hui.
Merci. Puis tu fais bien d'en parler parce que je ne savais même pas que ça existait avant que tu en parles. Avant que tu partages sur les médias sociaux et tout. Donc, c'est bon de parler de ce salon. Et maintenant, Patrick est revenu. Que tu as dit?
Je suis revenu avec le roman le plus terrifiant sorti, selon moi, cette année.
Oh! D'accord.
Non, c'est savoureux. Par exemple, les mémoires de Paris Hilton. Moi, je vous conseille Something is Killing the Children, qui est un roman graphique. C'est très bon, c'est hallucinant. Donc, il y a plusieurs volumes. Ça, c'est le volume 1. Si vous aimez l'horreur avec les monstres, les affaires un peu étranges, les illustrations sont fabuleuses. C'est extrêmement bien écrit. C'est savoureux. Je vous conseille aussi, j'ai deux choix. Manhunt, qui est un roman en anglais. Je m'excuse, je lis en anglais. De Gretchen Felker Martin, c'est vraiment de l'horreur queer. Mm-hmm. On suit ici une espèce de futur post-apocalyptique où tous ceux qui ont de la testostérone dans le corps deviennent des espèces de maniaques dangereux qui veulent tuer tout le monde. Alors, on va suivre comme une armée de femmes trans. Oui, exactement, mais là, on va suivre une armée de femmes trans qui essaie de survivre dans ce monde post-apocalyptique-là. Et qui essaie de trouver de l'estrogène pour pas devenir complètement fou et tuer tout le monde. Alors, c'est savoureux, c'est dégueulasse, c'est extrêmement sanglant. C'est très, très queer et je le conseille à tout le monde. C'est un excellent roman que j'ai lu dernièrement. Donc, voilà, c'est mes deux suggestions. Et Paris de mémoire, à défaut d'avoir lu celui de Paris Hilton, celui de Britney Spears qui vient de sortir. Moi, j'ai lu celui de Paris Hilton qui est savoureux et qui est surprenamment très, très intelligent et très bien écrit. Alors, je me demande si c'est vraiment elle qui l'a écrit ou quelqu'un.
Oui.
Ou une fake. Elle a comme deux personnalités. Paris, ça qu'on ne sait jamais laquelle qui nous parle. Mais elle switch le personnage dans la vraie vie. C'est très, très weird à regarder. Là. J'ai vu des entrevues d'elle où elle a sa petite voix, genre, that's hard. Là, elle m'a parlé super grave après, puis super sérieuse. Puis comme, wow!
Possession.
C'est très weird. Ça doit être possédé. Là. Elle va se mettre à. On va y acheter des couches.
Parlant de couches, on a un spectateur qui nous dit « OMG, quoi? No way! De projection de diarrhée! » Je m'excuse, je ne voulais pas le lire dans une intention sarcastique.
Puis le roman, petit lecteur, tu vas voir, c'est savoureux. Ben, façon de parler.
Hein. Oh, non, c'est pas le bon objectif, je refuse.
Mais moi, j'ai une petite question. Mais là, je sais, Patrick, Isabelle, que tu l'avais déjà lu, l'exercice, mais là, tu l'as relu récemment. Est-ce que, tu sais, comme dans ton écriture, est-ce que ça te fait réfléchir de lire des trucs?
Moi, j'ai réalisé que ça avait eu beaucoup plus d'impact que je pensais sur la façon que j'écris l'horreur.
OK.
Parce que de la façon que j'écris, je suis très, très slow burn. Si je commence en établissant l'ambiance, puis je me rends compte que ça vient vraiment de là. Puis ce qui est très drôle, c'est que la première fois que j'ai essayé de le lire, dans ce format épouvantable-là, je trouvais que c'était fucking long, puis que c'était plate, puis qu'il se passait rien, fait que je l'ai rapidement abandonné. J'ai fini par le relire quelques années plus tard, quand je me suis acheté cette version brune magnifique ici. C'est là la première fois que je l'ai lu vraiment de A à Z, mais ça fait longtemps, là, c'est genre début des années 2000. Et le relire, je dirais que oui, ça a eu un impact plus que je pensais sur la façon dont j'écris. C'était sur ta question.
Okay. Mm-hmm. Oui, parce que voilà. Là, tantôt, tu parlais beaucoup, tu sais, qu'il y avait des choses, tu sais, que tu trouvais que ça manquait d'action, puis tu sais, t'écris beaucoup de jeunesse, fait que tu sais, je me disais, comme, est-ce que c'est un peu, comme ta vision est, c'est pas le mot contaminé, là, mais ta vision est comme plus dans la jeunesse, fait que tu te dis qu'il faut que ça bouge, il faut que ça avance, est-ce que c'est des choses aussi que toi, tu préfères lire?
Oui, il faut que ça bouge, puis en même temps, c'est important d'établir l'ambiance, d'établir une espèce de... Tu sais, l'exorcisme, pour moi, c'est oppressant. C'est pas si effrayant que ça.
Oui, je suis d'accord.
C'est que c'est une oppression. T'es comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis tu le sens, la lourdeur de ce qui se passe. Mais c'est dans l'écriture, c'est dans la façon que c'est écrit, dans la façon que c'est amené. C'est subtil, c'est des switches, des fois, de narration, où il se met à juste comme énumérer des mots avec des points, puis c'est comme OK, il y a quelque chose qui se passe, là, oh, il y a un bruit en haut, puis de juste la façon dont ces choses-là sont amenées, je trouve ça intéressant, puis même en jeunesse, c'est le genre de procédé que moi je vais utiliser. Là, là où je suis pas d'accord, c'est toutes les fausses pistes qui mènent absolument nulle part, qui sont super intéressantes pour être des romans en soi, comme le satanisme, entre autres, qui parle de Mesmore et tout, qui a fucking pas rapport avec le roman. Ça, à la limite, j'étais comme pourquoi c'est là? Je comprends pas. Carl, j'ai toujours pas compris qu'est-ce qu'il faisait là. C'est comme, t'es-tu un nazi? Pourquoi est-ce que t'as eu une main, Denis?
Oui, c'est... Pas...
c'est juste comme... T'es suisse, je t'aime pas à faire, ça je vais crier après, puis de... Mais c'est ça, il y a des choses que j'étais comme... C'est louche, je comprends pas, j'ai l'impression que... Ben, je sais qu'ils ont sorti une version 50e anniversaire de l'exorciste, où Blackie a comme rajouté des trucs dans le roman, je serais curieux de lire cette version-là. Parce que je sais qu'il a retourné dans le roman puis qu'il a rajouté des trucs que son éditeur initialement lui avait demandé d'enlever parce que ça rallongeait le roman et tout. Ben, je serais curieux de voir si peut-être ces pistes-là mènent quelque part parce que Carl puis sa fille qui est comme une prostituée ou une danseuse, on sait pas trop, là, avec quelqu'un attaché dans une chambre à un moment donné, c'est une droguée. On va dire ça, c'est une droguée. J'ai comme, mais à quoi ça sert? Pourquoi je vois ça? J'ai toujours pas compris.
Mais c'est un filon intéressant.
Ben, ça, je n'utiliserais pas ça dans mes romans, mais tu as quand même besoin d'avoir des fausses pistes dans un roman, ce qui est tout à fait normal, mais tu as besoin quand même de fermer ces parenthèses-là, ce que j'ai l'impression que Blackie a pas fait, j'ai l'impression qu'il nous abandonne à la fin. Ouais. J'ai l'impression qu'il était comme, oh mon Dieu, je ne sais pas comment finir ça, puis c'est comme, pouf, 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 les prêtres sont morts, puis la petite fille est revenue, puis on voit Kinderman qui parle, puis c'est comme, on s'en fout de ces personnages-là, on les a jamais aimés dans le roman, pourquoi on les voit dans le film? Bref, je suis chialeux, je m'excuse, mais c'est ça.
Non, mais c'est très bien. Moi, je vais y aller avec, après toutes vos belles recommandations culturelles, moi, je vais y aller avec la mienne. Je vous recommande de ne pas aller voir The Exorcist Believer. C'est un film de merde. Tout ce qu'on a aimé jusqu'à maintenant dans l'exorciste, tout ce qu'on a nommé, c'est pas là.
Puis pas Willem Burstyn qui ramène en plus dans le film. Pour
je comprends pas. Je comprends qu'est-ce qu'elle fait là. Elle s'en va prendre son chèque de paye, mais oh mon Dieu, quelle horreur! Il y a la version cinématographique de Jem et les hologrammes qui m'a fait penser à ce film-là, c'est-à-dire qu'à la toute fin, il y a un caméo, puis je me dis, mais c'est ça le film que je voulais voir!
Comment ça, Kesha est-tu dans l'exorcisme de Lieber?
Malheureusement pas! Malheureusement. Écoute, quel film ça aurait été? Kesha possédé
par le démon? Au moins, c'est savoureux dans Jem, ben oui,
This place about to blow, littéralement. Mais non, finalement, c'est pas ce qui se passe. Puis là, à un moment donné, c'est deux petites filles qui sont possédées. Tu sais, toute la subtilité, là, c'est out. La petite fille est possédée par le démon. Cinq minutes après, les parents sont comme, ben, ils sont possédés par le démon. Ça prend un exorciste. Puis, c'est deux petites filles. Puis là, à un moment donné, le démon, il leur propose un choix de Sophie. Puis là, il faut que les parents prennent une décision. Mais c'est le démon. Fait qu'on le sait. Qu'est-ce qui va se passer si, peu importe la décision qu'ils prennent, c'est le démon, il va faire à sa tête.
Le démon, c'est un menteur. Il l'a dit, Maren.
C'est pas Zouzou. Puis là, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, effectivement, là, il y a une twist. Le démon fait une twist. Fait que je ne sais pas si vous l'avez vu dans les journaux, là, ce matin, ça a été annoncé. Pas Zouzou, le démon de l'exorciste. C'est lui qui va animer Occupation Double l'année prochaine. Il va faire des twists. Captain Twist. Il fait j'ai choisi Jonathan. Ben d'abord, c'est Jonathan qui est éliminé.
C'est très bon.
Quelle est l'activité aujourd'hui? Aujourd'hui, on va sucer des cœurs en enfer. Bref. C'était mon imitation de Pazuzu. Mais bref, allez pas voir ce film-là. Par contre, j'ai une vraie recommandation à vous faire, c'est de regarder la série. Je viens juste de la terminer hier soir. La série The Fall of the House of Usher. C'est sur Netflix. C'est un procédé que je tripe. D'abord, de prime abord, j'adore Mike Flanagan. J'adore tout ce qu'il a fait sur Netflix. Mais je veux vraiment parler de cette série-là parce que c'est un procédé que j'aime particulièrement. Il a pris des nouvelles d'Edgar Allan Poe et il a tout mis ça ensemble dans une histoire. Mais il y a aussi, c'est comme si chaque personnage, chaque épisode avait sa petite histoire, mais ça forme une histoire au total. Ça m'a beaucoup rappelé le principe de Tommyknockers, qui est mon livre préféré de Stephen King, et c'est un procédé que j'aime vraiment beaucoup, donc je vous recommande fortement d'aller voir, de regarder cette série-là. Un petit lecteur dit « Je suis tellement content d'avoir entendu les critiques avant d'aller voir The Exorcist, parce que le film s'est fait ramasser solide, 10$ de plus dans mes poches. » Oui, c'est absolument. Believer. Voilà. Bref. Je vous remercie d'avoir été là. Merci à vous, mes invités.
Ok, attends, mais j'ai dit que Tommyknockers, c'est ton roman préféré de Stephen King?
C'est mon roman préféré de Stephen King. Okay. Personne n'est d'accord
alors
avec moi.
Parle, non.
Même Stephen King n'est pas d'accord avec moi.
Je vais te battre de façon très, très violente. C'est correct, je te respecte pareil, Sylvain.
Je maintiens mon point.
Toi, ça veut pas dire que tu as raison.
J'ai un petit truc à rajouter. C'est
oui,
vas-y. Tu as parlé de Exorcist Believer qui est très mauvais, effectivement. Dans le même ordre d'idée, tu as un autre film qui est sorti cette année d'Exorcist et que j'ai trouvé tellement meilleur. C'est The Pope's Exorcist.
Ah ouais.
C'est tellement un film qui se prend pas au sérieux, j'ai adoré ça. Et c'était juste amusant. Fait que tant qu'à faire, autant regarder ça que Believer. Patrick Isabelle, je vois que t'as pas aimé.
J'ai des réserves. J'ai trouvé ça beaucoup trop religieux à mon goût. L'aspect religieux est vraiment là dans le tapis.
Je suis d'accord. Dis-toi que c'est la même chose dans l'exercice Believer, mais ça se prend au sérieux, alors que dans l'autre, tu vois quasiment comme une mythologie. Moi, je l'ai vu comme si
c'était Russell Crowe en partant.
C'est vraiment. Allez, on parle de démons comme si c'était réel et c'est tellement absurde que ça passe. Tu sais, à la fin, ils disent OK, on va trouver. Il y a 100 démons sur la Terre, on va tous les trouver, on va tous les. C'est comme Supernatural.
Écoute, je pensais pas dire ça, mais ça me tombe.
c'est pas mauvais, c'est quand même très efficace. Puis j'ai réussi à sursauter plusieurs fois pendant le film. La fin m'a fait beaucoup chier. Puis Russell Crowe en partage, j'y crois pas, je sais comme c'est quoi cet accent-là. Puis pour avoir vu des documentaires sur le vrai exorciste du pape, c'est comme si ça n'a pas rapport. Là. C'est comme si je veux dire, le vrai, c'est un homme qui a vraiment existé, cet exorciste-là. Et ça n'a vraiment pas rapport avec le film. Puis il essaie d'en faire une franchise pour en faire plusieurs. Ben, j'ai comme des doutes, puis la fin m'a vraiment, j'ai comme vraiment, c'est comme ça que tu le film.
Mais c'est génial, la fin. En tout cas, moi, j'adore ça.
Je veux pas savoir.
En tout cas, vous le regarderez, puis on s'en reparlera. On se fait un club de cinéma.
Excellent. C'est le MCU de Pazuzu, je comprends.
Oui. Donc, non, Pazuzu, il n'est pas là-dedans. Là.
Non, je sais.
Mais ben, on dirait bref... qu'ils ont voulu faire un MCU, quoi. Ouais, c'est ça qui est le fun.
Non, ils veulent partir un nouveau Conjuring Universe, mais avec le pape.
On va éteindre et on va parler de cinéma ensemble. Je vous remercie d'avoir été là. Je veux juste vous signaler que le mois prochain, on va parler de Mexican Gothic de Sylvia Moreno-Garcia. Ça, c'est la lecture pour le mois de novembre. Merci beaucoup à tous mes invités d'avoir été là.
Merci. Je l'ai acheté.
Ben, si ça tente, tu seras là, OK? Puis ça va être une soirée, donc ce ne sera pas le matin.
Bon. Ben là, Pat ne sera pas là. Moi, je suis attaché à Pat maintenant. Là.
Ben, si tu veux être là, tu peux être là, Pat, mais ça va être le soir. OK, bye! Bonne soirée!